Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Dans ce numéro, nous parlerons d'agriculture et de souveraineté alimentaire dans un contexte de défis liés au réchauffement climatique et de dégradation de l'environnement. Comment alors faire appel à des solutions innovantes pour à la fois assurer un bon rendement agricole tout en préservant les sols? Nous nous intéressons bien évidemment à des cas en Afrique. Vous aurez les détails dans le Zoom Express. Et dans la destination éco de la semaine, nous serons au Ghana pour parler des défis économiques qui se posent dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, surtout avec le retour au pouvoir du président John Dramani Mahama, dont on parlera donc du programme économique. Tels sont les deux principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Je vous le disais à l'instant, nous nous intéressons à l'agriculture africaine et à la souveraineté alimentaire, cela dans un contexte de défis liés au réchauffement climatique et à la dégradation de l'environnement. Comment alors faire appel à des solutions innovantes pour à la fois assurer un bon rendement agricole tout en préservant les sols? J'ai le plaisir d'en parler dans le Zoom Express avec Julia Tatin, qui est la CEO de Cogité et AgriTen Tech. Bonjour à vous, Julia Tatin.
Bonjour. Bonjour à vous aussi et merci de me recevoir.
Alors, avec nous aussi Mustapha El Bouri, directeur général du cabinet et de la plateforme Best Afrique. Bonjour à vous, Mustapha El Bouri.
Bonjour.
Alors, Julia, je commence avec vous, Julia Tatin. Parlez-nous tout d'abord du Cogité et surtout d'AgriTen Tech.
Alors en fait, moi je suis arrivée au Maroc il y a 18 ans à peu près. Et donc j'ai commencé rapidement à travailler dans un grand groupe agricole pendant une quinzaine d'années. Et de cette expérience, j'ai décidé de monter mes sociétés. Donc ça s'est passé il y a 5 ans à peu près. Et mon objectif, c'était ça, c'était de pouvoir apporter des produits qu'on avait du mal à trouver sur le marché marocain et africain. Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que le Maroc, c'est un peu le hub, c'est la plateforme pour pouvoir se développer dans les pays d'Afrique de l'Ouest d'abord et puis dans le reste de l'Afrique. Et voilà, donc j'ai décidé de monter AgriTen Tech pour accompagner des investisseurs ou des distributeurs, des personnes qui voulaient venir apporter leur technologie et leurs innovations sur le continent. Mmh. C'est comme ça que tout a commencé.
Mmh. Alors, on va entrer dans les détails hein, de ce que vous faites et du plus que cela peut apporter à l'agriculture africaine. Mais avant cela, Mustapha El Bouri, vous vous intéressez bien évidemment à ce secteur agricole, notamment à ce défi d'adaptation. Parlez-nous-en, Mustapha El Bouri.
Oui, Omar, c'est vrai que l'agriculture, c'est un domaine très important pour l'Afrique. Aujourd'hui, si on voit sur le continent, juste pour donner quelques chiffres, l'Afrique compte près de 600 millions d'hectares de terres arables qui sont non cultivées déjà. Et ça représente un chiffre de près de 60% du total mondial. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, il y a beaucoup à faire. Et je pense que il y a un grand travail à faire pour faire en sorte que l'Afrique nourrisse elle-même l'Afrique. Quoi. Le continent apporte chaque année une quantité énorme de produits alimentaires pour près de 35 milliards de dollars. C'est énorme. Et donc, comme a dit Julia, je pense qu'il y a vraiment un besoin d'accompagnement aussi. Je pense qu'elle va nous en parler parce qu'elle accompagne aussi les agriculteurs dans différents domaines pour qu'ils puissent en fait augmenter la productivité aussi de leur et le rendement aussi de des terres. Mmh. Et aussi en termes d'irrigation aussi hein, parce qu'aujourd'hui on a un grand problème d'irrigation sur l'Afrique les terres, la part des terres aménagées pour l'irrigation, elle représente seulement 6%. Alors que, bon, pour donner des chiffres, en Asie, c'est 40, aux États-Unis, c'est 25, en Europe, c'est 20. Mmh. Donc, il y a vraiment un grand travail à faire en termes de formation, d'accompagnement.
Mmh. Donc, pour faire passer ce rendement de 6% à beaucoup plus. Justement, Julia Tatin, vous êtes dans ce domaine-là. Selon vous, aujourd'hui, quelles sont ces solutions qui permettent de renforcer, d'augmenter les rendements de l'agriculture des pays africains?
Ben, aujourd'hui, on a la chance, en fait, un peu de pouvoir... reprendre, on va dire, de tout ce qui a été fait dans d'autres pays comme l'Europe ou dans d'autres continents, et pour l'apporter, j'ai envie de dire, presque tout de suite sur le continent africain. Et je parle beaucoup d'arrêter tout ce qui est, ou en tout cas de diminuer fortement tout ce qui est agriculture chimique pour passer à de l'agriculture de régénération et de l'agriculture organique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de gens, on se dit non, si on fait du biologique, de l'organique, de la régénération, on a moins de rendement, et c'est pas vrai. Aujourd'hui, on a tout à fait l'expérience et le passé de pouvoir apporter des solutions qui sont meilleures pour l'environnement, qui permettent de conserver nos sols, qui permettent de faire plus de rendement, et donc de l'apporter directement dans les pays africains. Et on le voit aujourd'hui, rien qu'avec les produits que j'ai ramenés, on fait des différences. Par exemple, on a des personnes qui sont sur de l'agriculture biologique et qui vont faire les mêmes rendements que l'agriculture conventionnelle. Donc c'est vraiment cependant, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon d'aborder l'agriculture. Et c'est là où il y a aussi tout le travail d'accompagnement et de formation qu'il faut faire à côté.
Mmh. Alors vous, qu'est-ce que vous avez expérimenté ici au Maroc et qui pourrait s'exporter ailleurs dans le continent?
Alors, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est déjà les engrais organiques. Donc ça, c'était des produits au Maroc qui n'existaient pas. C'était une niche, même il n'y avait même pas de certificat sanitaire, on va dire, qui permettait d'importer ce type de produit. Donc on a mis plusieurs années pour obtenir les autorisations, pour passer les contrôles. Mais aujourd'hui, c'est des produits qui arrivent, qui sont au Maroc depuis quelques années maintenant et qui donnent de bons résultats parce qu'en fait, c'est des produits qui sont organiques, donc avec beaucoup d'acides aminés, 100% assimilables. Les plantes, elles peuvent tout assimiler, ce qui est le contraire du chimique. On sait aujourd'hui que quand on met un kilo d'azote chimique, tout de suite, c'est évaporé dans l'atmosphère ou dans les nappes phréatiques. Donc voilà, donc nous, on a pu ramener des produits comme ça, mais on travaille aussi sur d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal. Tous ces pays-là, ils commencent à prendre aussi à partir du chimique pour commencer sur ce type d'engrais. Donc, on a des bons résultats aujourd'hui sur beaucoup de cultures tropicales, mmh, comme la canne à sucre, l'ananas, la mangue, voilà tout ça, le riz. Mmh. Voilà, on a beaucoup de bons résultats.
Mmh. Alors, Moustapha El Bouri, cela dit, pensez-vous qu'il y a de l'intérêt? Parce que bon, on sait que sur le plan politique, tous les pays sont dans une logique de développer leur agriculture parce qu'on parle de souveraineté alimentaire. On a vu l'impact extrêmement négatif du conflit en Ukraine sur les économies et les agricultures, ou bien en tout cas le secteur alimentaire en Afrique. En ce qui concerne le secteur privé, quelles sont les initiatives que vous voyez émerger?
Oui, moi, vous avez raison. Vous savez, malgré le fait qu'il y ait sur notre continent, c'est vrai qu'il y a une urbanisation qui est de plus en plus rapide. Les activités qui sont liées à l'agriculture, elles constituent encore un moyen de subsistance qui est très très important. Ça représente plus de la moitié de la population active du continent. Donc, comme l'a souligné aussi Julia, il y a une baisse de fertilité des sols avec les changements climatiques, tout ce qui est vulnérabilité aussi de l'agriculture. Donc, il faut trouver aussi des solutions à ça. Je pense que l'intérêt est là. Mmh. Maintenant, il est vrai qu'il faut, il y a un gros travail de fond à faire. On a beaucoup de pertes aussi sur l'Afrique subsaharienne, pas trop au Maroc, mais sur l'Afrique subsaharienne. Moi, j'en vois beaucoup, on perd beaucoup. Moi, j'ai eu des exemples concrets comme les mangues. Voilà, par exemple, au Sénégal, plus de la moitié de la production pourrit par terre parce qu'il y a pas assez de transformation et d'accompagnement aussi. Donc, de ce côté-là, non, l'intérêt est lié, Omar. Mm-hmm. Maintenant, c'est vrai que le développement de l'agriculture, c'est l'un des leviers les plus puissants sur lesquels on peut agir pour mettre fin à une grosse partie de la pauvreté et puis surtout renforcer aussi le partage de la prospérité sur le continent. Hein. Donc, mais l'intérêt, il est là. L'agriculture a un rôle décisif à jouer sur, au regard de la pauvreté en Afrique.
En tout cas, ma dernière question pour Julia Tatin, qui, je le rappelle, est CEO de Cogité et AgriTentech. Alors, avez-vous eu déjà des expériences concrètes avec des partenaires du continent?
Oui, bah, je vais vous donner un autre exemple avec un autre produit que je développe pour les éleveurs. Donc, on a ramené des huiles essentielles qui se donnent dans l'alimentation animale et qui ont un rôle de renforcer le système immunitaire et donc d'améliorer tout ce qui est indice de productivité. Et c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire les huiles essentielles, est-ce que vraiment c'est ce que le continent africain a besoin? Et tout à fait, parce qu'en fait, on a commencé à faire des essais au départ, au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire. Et le produit, il a parlé de lui-même. Parce qu'en fait, il y a un tel manque de produits, de conseils, d'accompagnement, que ben, dès qu'on ramène un bon produit, le produit, il va parler de lui-même, il va passer de main en main. Et aujourd'hui, j'ai des petits distributeurs qui étaient à la base des fermiers qui ont commencé à distribuer le produit. Donc, j'ai un distributeur au Mali, un distributeur au Burkina. On envoie tout du Maroc, un au Sénégal, un qui commence à arriver en Côte d'Ivoire, en Mauritanie. Et ça, c'est vraiment un produit qui a parlé de lui-même, qui accompagne les éleveurs dans leur quotidien, qui apporte une réponse et dont on a pu permettre à des éleveurs, à des petits distributeurs ben, de générer de la valeur ajoutée, de générer du business pour eux et autour d'eux. Voilà, et ça, je pense que c'est une belle réussite parce que souvent, on parle de grands groupes, mais de pouvoir accompagner aussi des personnes qui sont sur le terrain à développer leur activité avec des nouveaux produits, dont les huiles essentielles. Ben, voilà, il y a de vrais cas concrets qui existent et qui sont des réussites aujourd'hui.
Des réussites donc à multiplier. Merci à vous, Julia Tatin. Vous êtes, je le rappelle, CEO de Cogité AgriTentech. Donc, vous êtes active dans le domaine donc, de l'agriculture, notamment en proposant des solutions donc, innovantes pour à la fois augmenter le rendement et respecter l'environnement. Ce fut un plaisir de vous recevoir, ainsi que Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique. Merci à vous deux d'avoir été dans Coémergence.
Merci Omar.
Merci.
Coémergence, l'invité.
Elle s'appelle Juliette Perron. Elle est la directrice générale du Sofitel Cotonou au Bénin. Avec elle, nous parlons du développement de l'industrie hôtelière en Afrique. Bonjour à vous, Juliette Perron, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être là.
Alors, pouvez-vous nous faire un peu comment se porte l'industrie hôtelière dans ce pays d'Afrique de l'Ouest?
Alors, l'industrie hôtelière au Bénin se grandit actuellement, c'est-à-dire qu'on était sur une industrie hôtelière assez réduite. On avait une offre hôtelière qui n'était pas extrêmement large et grâce à l'arrivée du Sofitel, on gagne en visibilité sur le territoire évidemment béninois, mais aussi sur le continent africain afin de vraiment mettre en avant un flagship hôtelier, un vrai hôtel 5 étoiles de qualité avec une infrastructure et des finitions très, très haut de gamme.
Alors, aujourd'hui, de quoi les grandes villes africaines ont le plus besoin? Est-ce des hôtels 5 étoiles ou plutôt de moindre gamme? Le besoin s'exprime à quel niveau plus précisément?
Aujourd'hui, je pense que toutes les grandes capitales africaines ont besoin d'une diversité, c'est-à-dire qu'un peu à l'image des capitales du monde, on a besoin de pouvoir accueillir aussi bien des chefs d'État, des grands hommes politiques, des grands hommes de l'industrie qui sont en recherche d'une hôtellerie 5 étoiles, et aussi de pouvoir accueillir le voyageur d'affaires panafricain qui est peut-être sur un budget un peu plus modeste et d'avoir des 2 et 3 étoiles. Qui permet à une ville d'être performante aujourd'hui et d'accueillir vraiment des grands congrès, des grands événements, d'être très active économiquement sur l'industrie hôtelière, c'est réellement la diversité, c'est-à-dire d'avoir une offre hôtelière qui va du 2 étoiles aux 5 étoiles.
Une diversité. Donc, pour répondre à la demande, justement cette demande, comment se porte-t-elle? Est-ce qu'on parle ici peut-être de manque d'offres ou plutôt d'une demande qui dépasse l'offre carrément?
À Cotonou, au Bénin, c'est vraiment une demande qui dépasse l'offre. C'est-à-dire que l'arrivée du Sofitel était vraiment très attendue parce qu'on arrive avec 198 chambres supplémentaires et ça met vraiment une soupape d'air pour pouvoir accueillir tous les événements qu'on souhaitait accueillir. On avait aujourd'hui trop peu de chambres d'hôtel et on est très, très souvent contraints et pris dans l'indisponibilité même de pouvoir accueillir certains événements. Parce que pas assez de chambres. Donc c'est vrai que l'arrivée du Sofitel est une vraie joie pour nous parce que ça nous permet d'accueillir des vrais événements d'envergure internationale. On a accueilli en début de semaine la Journée mondiale du coton ou un événement pour la Banque africaine du développement et c'est des événements qu'on a pu accueillir parce qu'il y avait le Sofitel et qui permettaient d'avoir vraiment un nombre de chambres conséquent à la hauteur aussi des internationaux qui se sont déplacés pour ces événements.
Alors,
donc c'est un tout.
Quel est aujourd'hui le potentiel de développement de l'industrie hôtelière sur le continent?
L'industrie hôtelière a encore un très très bel avenir sur le continent. On est sur une industrie hôtelière qui est souvent indépendante. Il y a quelques marques qui sont implantées, mais pas toutes. Sofitel et Accor en général ont repris un grand développement sur le continent africain. Je pense qu'on est tous conscients pour dire qu'une grande partie de l'avenir se jouera en Afrique. Et aujourd'hui, de manière générale sur le continent, l'offre hôtelière est encore parfois un peu légère et pas assez standardisée, de qualité, avec une vraiment qualité de service homogène d'une destination à l'autre et même à l'intérieur de la destination. Donc les perspectives sont grandes. Les ambitions de développement également et j'espère surtout qu'on sera suivi par de nombreuses marques, chez Accor évidemment, chez Sofitel bien sûr, mais aussi chez des marques concurrentes néanmoins amies qui participeront au développement du continent de manière générale.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème de financement pour développer cette infrastructure hôtelière ou plutôt peut-être le manque de rentabilité qui fait que le rythme est ce qu'il est aujourd'hui?
La rentabilité sur un hôtel 5 étoiles, c'est sûr que c'est un enjeu, c'est-à-dire que c'est des hôtels qui coûtent assez cher à la construction, donc la rentabilité est un peu plus longue que si vous construisez un hôtel 2 ou 3 étoiles, dont la rentabilité est beaucoup plus efficace, on va dire, peut-être en 2-3 ans, vous aurez récupéré votre investissement. La réalité, je pense que c'est un mix des deux, c'est-à-dire que les financements font parfois peur et dans des destinations où le marché n'est pas encore très affirmé, c'est de l'audace qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut des développeurs, des financiers qui ont foi, qui croient en la destination et qui ont envie d'être un peu précurseurs sur le pays pour lancer des beaux projets. Et plus l'hôtellerie sera forte, plus l'économie suivra. Parce qu'on aura les infrastructures nécessaires à l'accueil d'événements, à l'installation d'entreprises internationales. C'est un tout pour avoir une destination qui fonctionne. Il faut des beaux réceptifs pour pouvoir accueillir.
En tout cas, c'est à suivre. Une dernière question, bien évidemment. Vous êtes dans le milieu depuis plusieurs années. Vous voyez les évolutions. Comment voyez-vous les perspectives de développement?
J'ai assez, en tout cas au Bénin, les perspectives de développement sont énorme. On a déjà plein de projets avec d'autres marques qui sont signées. Donc, il y a vraiment une ambition forte sur la destination Bénin, où l'hôtellerie est vraiment, et le tourisme en général, est un de ses piliers forts. Et je pense que c'est très vrai pour toute l'Afrique de l'Ouest, que je maîtrise mieux que le reste du continent. Les perspectives de développement sont importantes. Il faut effectivement encore quelques développeurs confiants qui ont foi dans leurs projets pour pouvoir aboutir à tout ça, mais je suis extrêmement confiante et c'est ce qui fera aussi le succès de la destination Afrique dans les années à venir.
En tout cas, c'est à suivre. Je retiens donc les perspectives de développement sont intéressantes. Merci à vous, Juliette Perron. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du Sofitel Cotonou, vous nous parlez donc depuis le Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Destination Éco.
Je vous le disais en titre, la destination Éco de la semaine nous mène au Ghana. Le Ghana, donc, pour parler de ces défis économiques qui se posent dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Cela avec le retour au pouvoir du président John Dramani Mahama. Parlons-en avec Idriss Lindjé. Bonjour à vous, Idriss Lindjé. Alors, quels sont les défis économiques qui attendent le président John Dramani Mahama?
Alors, étrangement, Dramani Mahama qui revient au pouvoir, il est revenu avec les mêmes promesses que Akufo-Addo lorsqu'il venait au pouvoir. Je vais réformer l'économie, je vais stimuler les investissements étrangers et je vais développer des infrastructures. À ce niveau, on a envie de dire rien de nouveau. Mais nous avons quand même essayé de comprendre ce qu'il entendait par reformer l'économie. Et je pense que ça va être très intéressant à suivre. Par exemple, il a décidé qu'on puisse mettre une économie de 24 heures. Il n'y aura plus un seul moment où on dit que l'économie ghanéenne est en pause. Il faut que les gens aillent se reposer, il faut qu'ils aillent dormir. Il faudrait que les gens continuent de travailler en continu afin d'augmenter la production. Mais non, j'ignore s'il veut qu'on augmente la production en termes de livraison de produits locaux ou alors s'il veut qu'on augmente la production qui sera tournée vers les exportations. Ça, c'est des choses qu'il faudra voir. Il a aussi promis qu'une chose qu'il veut faire, c'est renégocier l'accord avec le FMI. Il y a un accord qui existe actuellement et qui est presque, je crois, qui a été validé, mais il pense que les conditions que le FMI a imposées, alors que les conditions de cet accord avec le FMI sont des conditions qui sont difficiles à tenir. Connaissant un peu qu'est-ce que le FMI dit souvent, je pense qu'il n'a pas tort. C'est-à-dire, on peut dire au Ghana, il ne faut plus emprunter, il faut rembourser toutes tes dettes, il faut augmenter les impôts. Est-ce que c'est parfois la bonne solution dans la structure réelle de nos économies? Je crois que ces questions-là restent toujours en discussion. Mais est-ce que renégocier l'accord avec le FMI ne va pas faire craindre ceux qui détiennent la dette ghanéenne et par conséquent, provoquer une situation où on lui demande de rembourser tout de suite sa dette? Ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir suivre parce que selon l'un ou l'autre, on risque d'assister soit à une amélioration des choses, soit à un effondrement de l'économie. Il a aussi promis de réformer le secteur du cacao, qui est l'un des secteurs qui emploie le plus au Ghana, et que ce secteur devrait permettre notamment aux producteurs de gagner beaucoup plus d'argent. C'est une très bonne idée. Je pense que c'est quelque chose qui a fait en sorte que beaucoup de gens le votent, parce que les cacaoculteurs n'ont pas vraiment bénéficié de l'amélioration des prix de contrat de vente à terme du cacao sur le marché mondial. Il a aussi promis de soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation. Je me demande bien comment, j'attends de voir. De réduire les dépenses publiques, ça, c'est des discours connus. De développer les infrastructures, je l'ai dit, c'est des choses qui sont déjà connues. Peut-être qu'il veut relancer l'emploi en construisant davantage d'infrastructures. Mais une fois de plus, j'ai dit que si ces infrastructures ne sont pas tournées vers l'exportation, alors on emprunterait pour pouvoir rembourser avec le CDI ghanéen, ça resterait toujours un problème économique. Donc, il faut qu'on suive. Je pense qu'il y a beaucoup de changements qui vont survenir au Ghana pour les investisseurs étrangers et je pense qu'il y a des opportunités aussi à saisir.
Merci à vous, Idriss Lindjé. Je rappelle que vous êtes donc notre analyste par rapport aux économies africaines et surtout, vous êtes le directeur des rédactions donc de Media Mania qui édite plusieurs plateformes, notamment la plateforme Ecofin, l'agence spécialisée dans l'économie et la finance en Afrique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium. Et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.